Il y a du droit, Michel Burgon.
Bonjour. Le conditionnel, c'est de la conjugaison, mais c'est aussi du droit. En grammaire, le mode conditionnel est le mode du verbe qui présente l'action comme une éventualité ou comme la conséquence d'une condition incertaine. Le conditionnel présent, ou présent du conditionnel, est utilisé en droit pour paramétrer divers engagements pour lesquels le consentement est imparfaitement formé. Le conditionnel passé est utilisé dans le cadre de la fixation d'indemnités. Il décrit ce qui aurait pu être si tout s'était bien passé. En français, le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. À une lettre près, à la fin du verbe, vous exprimez du certain ou de l'incertain. La différence entre « je ferai » à « i » et « je ferai » à « is » ne s'entend bien qu'avec l'accent chantant de la Bigorre. Il est donc plus prudent de lire un contrat que de l'écouter. Il est indispensable de maîtriser la conjugaison et l'orthographe des verbes au temps présent, futur et conditionnel avant de signer. Prenons le verbe « tuer ». « Tu ne tueras point ». Il exprime indubitablement un interdit. « Je te tuerai ». Sans « s » à la fin, exprime une intention future et déterminée, alors qu'avec un « s » à la fin, ce n'est qu'une simple menace. En droit, il faut être conscient de la réciprocité des obligations entre les contractants. Chacun consent à une action en échange d'autre chose. La réciprocité de l'échange est nécessaire et le respect de toutes les conditions du contrat est indispensable, qualité des prestations, respect des délais, etc. Pour apprécier l'accomplissement parfait des engagements ou pour réclamer un complément, il faut exactement décrire les obligations de l'un et de l'autre et la conséquence de leur inexécution. Certaines sont immédiates, d'autres interviendront par la suite. L'accomplissement des conditions doit être parfaitement décrit pour qu'il n'y ait aucun doute sur leur accomplissement ou non. Pour les conditions futures, il faudra bien sûr envisager quel serait l'impact de la non-réalisation. Le contrat sera-t-il annulé, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais existé? Sera-t-il résolu, c'est-à-dire que l'on reconnaîtra son existence partielle jusqu'à sa résolution? Ou sera-t-il maintenu avec compensation ou plus ou moins d'indemnité? Dès qu'on prend conscience des détails, de l'espace et du temps qui peuvent influencer le bon déroulement d'une négociation et d'un contrat, on est amené à faire un tri entre l'essentiel et ce qui l'est moins, entre le certain et le probable. Et on aboutit très souvent à une synthèse qui peut être caricaturée de la manière suivante. Je le fais, mais si cela arrive, je me retire. Cela s'appelle une condition résolutoire. Je le ferai seulement si cela arrive, cela s'appelle une condition suspensive. J'ai encore besoin de réfléchir, cela s'appelle une option. Bien sûr, un langage approximatif, une mauvaise conjugaison ou des fautes d'orthographe peuvent dénaturer le consentement et la volonté des contractants. Prendre une option, contracter sous condition suspensive ou sous condition résolutoire sont donc des engagements totalement différents, entre lesquels on ne peut s'orienter qu'avec une parfaite information, pour lesquels on ne doit s'engager que par des phrases claires, composées de mots simples et précis, conjugués en respectant la grammaire. Accepter une donation avec condition, léguer sous condition, acheter ou vendre sous condition, les exemples sont multiples. La condition et ses conséquences doivent faire l'objet d'une description minutieuse. Elle est le nœud qui permet de ficeler ou déficeler un lien d'engagement. Bonne semaine. Visitez le site de l'émission.